espace d'une tectonique des plaques.
Une émission mensuelle de Dominique Demichel, Olivier Lostis et Gabriel Seban.
Une émission qui s'offre à vous pour explorer l'invisible des cohérences.
Et des incohérences.
Là où elles ont matière à trouver leur place.
Une émission qui va vous poser questions, sans se vouloir experte.
Surtout quand des lieux communs vous sont assénés.
Colonne vertébrale, si ça se trouve.
Qui vous laisse toute votre tête.
Oui, vraiment.
Sans vous laisser intact, bien sûr.
Une émission au sens non interdit.
Sens moral, bien sûr.
Bon, si on commençait à changer le monde, les amis.
Bien, écoutez, dans le prolongement de la première émission, la première porte dans le couloir du changer le monde que nous avions évoqué ensemble sur la précédente émission, c'est l'identité aujourd'hui qu'on traite. Alors l'identité avec... des points de passage qui seront, je l'espère, intéressants pour vous, qui nous ont en tout cas fort interrogés. Alors, en définition, Dominique, qu'est-ce que tu dirais d'identité ?
En y repensant, moi, je me disais dans quelle situation on utilise le mot identité. Alors, il y a d'abord un truc qu'on connaît tous, c'est notre carte d'identité. Hein, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui est très français. Hein, il y a des pays dans le monde où il n'y a pas de carte d'identité. Mais en France, il y a une carte d'identité. Mais ce mot, il est utilisé aussi pour désigner, bien évidemment, la personnalité civile d'un individu, mais aussi des tas d'autres choses. Par exemple, on parle d'identité numérique par rapport à quelque chose. Et puis, on peut parler de l'identité à propos d'un petit collectif. C'est quoi l'identité des chômeurs? C'est quoi l'identité des cheminots? C'est quoi l'identité des soignants? C'est quoi l'identité des patrons, des voisins? Donc, on sent, il me semble, que dans le mot identité, il y a une espèce de truc qui renvoie à... C'est du même, hein, parce qu'en latin, identitas, ça vient de idem. Idem, identité, c'est idem, ça veut dire c'est pareil, en gros. Donc il y a une espèce de collectif là, mais on sent qu'à l'intérieur de cette identité, il n'y a que des différences. Moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant au premier chef.
Oui, alors moi, effectivement, je réagis aussi directement à ça. L'identité, ce qui est identique, c'est effectivement le fait de souligner la similitude, l'unité. Mais derrière, il y a aussi un paradoxe, c'est que derrière l'identité, il y a aussi quelque chose qui se pointe de différent, de distinct, dont le marketing a fait fort usage, d'ailleurs. C'est le fait de désirer quelque chose d'unique de façon à lui accoler derrière, sur le désir de possession, un prix. Alors que, bon, je ne sais pas si... Qu'est-ce que tu en penses, Olivier ?
Ouais, déjà sur la question de l'identité, parce que c'est un sujet qui m'occupe l'esprit souvent et depuis très très longtemps. Et là, notamment en regardant sur les tables dans ma librairie, je vois que le terme fleurit partout. On en parlait lors de la dernière émission, mais les identités heureuses, les identités malheureuses, bref, pour faire référence à quelques slogans d'essayistes ou d'hommes politiques. Mais surtout, je pense qu'il y a encore pas si longtemps, on parlait peu d'identité en soi, comme ça, hein, dans le, voilà, dans,
dans le monde social.
Dans le monde social, voilà. Mmh. Et on parlait beaucoup, par contre, de repli identitaire ou un peu plus récemment encore de communautarisme. Repli identitaire, je me souviens que là on en parlait énormément, c'était il y a un peu plus de 20 ans, 25 ans, à peu près. Enfin, au moment où un pays très proche a explosé. C'était peut-être il y a un peu plus de 25 ans, je ne sais plus. Enfin bref, la Yougoslavie. Qui tout d'un coup est devenue une myriade de petits pays, Bosnie, Slovénie, etc., Croatie, dans la plus grande des violences. Et on a parlé à ce moment-là très très fortement de repli identitaire, un peu comme on a pu en parler à propos des identités régionales. Et tout d'un coup, il semblerait que l'identité ne soit plus comme ça un repli, un communautarisme, c'est-à-dire quelque chose de ciblé dans le social, justement, relativement négativement, et deviennent à nouveau un objet désirable. L'identité redevient une valeur positive. Mmh. Et ça va avec la nation, et ça va avec des tas de choses comme ça, ça va avec une espèce d'attitude contre-bruxelloise aussi, enfin dans notre environnement relativement proche, encore une fois, la tonalité, la valeur des termes a beaucoup, beaucoup changé. Bon, l'identité serait peut-être pas identique à elle-même tout le temps non plus. Donc.
Mmh. Alors, est-ce que tu ou vous reliez ça de façon plus directe à l'angoisse de dissolution ? C'est-à-dire qu'en fait, on est tellement immergé dans un consensus, ou pseudo-consensus en tout cas, de fonctionnement, qu'on en perd quelquefois notre sentiment d'être, au sens individuel du terme. Est-ce que c'est une angoisse ou est-ce que c'est un danger finalement qui nous menace et qui nous fait nous replier lorsqu'on se replie ou qui nous fait lutter lorsqu'on montre effectivement plus précisément la singularité
ou... ben, peut-être Olivier, peut-être tu pourrais développer un peu ce que tu dis. En tout cas, ce que je dirais moi juste, c'est quand on réfléchit aux verbes qui sont associés à un mot d'identité, on retrouve des expressions comme penser son identité, vivre son identité, s'accrocher à son identité, ou se détacher de son identité, ou se réapproprier son identité, ou définir son identité. Donc on voit bien qu'il y a une terme de contenu. Donc moi je veux bien que tu en dises un petit peu plus par rapport à ça.
Bah, en fait, c'est toujours un peu la même chose. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on utilise une de ces expressions, tu as raison, on le fait tout le temps. Mmh. Très souvent du moins, et simplement on définit jamais ce que serait ce contenu. Mmh. On a toujours, on la fonctionnalise à chaque fois, c'est-à-dire qu'on pense son identité. Alors, on ne sait pas ce qu'est l'identité en soi, mais on essaie de la penser, ou on la rejette, ou effectivement. On fait tout un tas de choses avec l'identité sans jamais s'intéresser à ce que pourrait être. Moi je pense à un livre récent que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Le contorsionniste ». De Craig Levenger, enfin, c'est assez récent, disons que la traduction en France est toute récente, il a 2-3 ans le livre. Et c'est l'histoire d'un homme qui change sans cesse d'identité. Et au fond, à chaque fois qu'il a une identité, ça rejoint la question de la carte nationale d'identité, sauf que là c'est au Canada, donc il n'y a pas de carte d'identité, mais il y a des papiers d'identité quand même, tout un tas de papiers d'identité qui fabriquent au fond son identité, parce que c'est ça qu'il va changer à chaque fois pour changer d'identité. Mmh. À chaque fois donc il se retrouve dans cette identité sous le signifiant majeur, c'est le nom qu'il se choisit, eh bien c'est une fausse identité au fond. Donc quand il est faux. Mmh. Par contre, il y a quelque chose qui fait une continuité tout le temps pour lui. C'est-à-dire qu'il y a un type qu'il retrouve tout le temps. Mmh. Et ce gars-là, c'est un gars de la mafia, parce qu'il a repéré qu'il était extrêmement brillant pour modifier les papiers. Ça peut lui servir pour tout un tas d'autres choses, à lui. Et lui, il le retrouve toujours. C'est-à-dire, ce qui le poursuit, c'est un autre. C'est quelqu'un qui va dire, non mais, je t'ai reconnu. C'est toi et je voudrais que tu me fasses à nouveau cette prestation que tu fais si bien. Donc lui, au fond, voilà, ce que je voulais dire simplement, c'est que l'identité n'est peut-être pas quelque chose de l'ordre d'une essence. Alors bien sûr, à Aristote, l'essence, l'identité, ce qui se conçoit en soi et qui ne dépend de rien d'autre. Voilà, je ne sais pas si c'est pas plutôt un espoir, un fantasme, quelque chose à quoi on se raccroche, qu'on construit et qu'on reconstruit sans arrêt, plutôt qu'un en-soi réellement, comme le pensaient les Grecs anciens.
Oui, ce serait en fait une espèce de métissage de la dynamique même qui nous amène à nous définir comme identité. Mais ça, 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 me, ça me fait penser un petit peu au principe d'Heisenberg en chimie quantique, à savoir que on sait effectivement
moi, je
la
sais
position.
Pas.
Quelle est la vitesse de, si on sait quelle est la vitesse de l'électron, on ne sait pas où il est.
Voilà.
Ah oui.
Et donc, du coup, inversement, si effectivement on sait où il est, on le sait dans un espace de temps tellement court que finalement il a eu le temps de changer, on n'a plus matière au moyen de l'atteindre.
Et c'est le principe d'incertitude. Hein. C'est-à-dire,
le principe d'incertitude
d'Heisenberg, c'est en effet, on ne peut pas connaître en même temps la position et les caractéristiques électriques, par exemple, d'un électron. Quoi. Ou on connaît l'un, ou on connaît l'autre.
Oui, alors, donc du coup, cette question qui se pose, c'est est-ce qu'on crée en permanence nos différences qui font que effectivement, d'un moment à l'autre, on peut, pour deux observateurs extérieurs, paraître une personne différente.
En tout cas, je trouve que dans vos deux propos, toi, Gabriel, tu parlais de dynamique. Toi, tu reprenais l'idée de ce contorsionniste. Moi, je trouve ça intéressant parce que, au fond, dans ces deux images-là, on voit bien qu'on est très très loin d'une sorte d'essence. Si on entend essence comme un truc qui tiendrait bien, qui serait fixé, définitif,
et tout seul sans référence extérieure.
Voilà, tout à fait. Hein. Tout
en
à
soi,
fait. Le contorsionniste, ça serait en l'occurrence l'espèce de, oui, ça pourrait être presque une espèce d'image archétypique de celui qui cherche son identité, au fond. Hein. Et comme cet homme, s'il était, lui, un nomade de l'identité, et que finalement, ce nomadisme identitaire définissait son identité, c'est
absolument.
Ça, au fond. Hein.
Ouais, ouais. Absolument, absolument.
J'aime bien ces images, moi, je trouve que ça parle, le gars qui change tout le temps, et on a envie de dire, bah, alors, mais t'es qui, toi, finalement ? Eh ben, je suis ce changement d'identité, finalement.
Hein. Ouais. Mais alors, ce qui est étourdissant, finalement, c'est que on a matière à appartenir à plusieurs communautés, par notre ethnie, par la nation, la famille, le groupe, éventuellement professionnel, le sexe, la classe sociale, la culture. Bon, on passera par là sans doute tout à l'heure, mais la question, elle est à quel moment, effectivement, choisit-on d'être l'un plutôt que l'autre ? Est-ce que c'est quelque chose qui tient à du situationnisme, une situation et un contexte qui nous pousse finalement presque à nous définir par une construction instantanée en fonction de l'intention ou de l'intérêt qu'on a, ou est-ce que c'est quelque chose finalement qui a une assise plus profonde et qui fait valoir que nous sommes tout cela à la fois?
J'ai du mal avec le verbe être, hein. Parce que justement, je pense que la question compliquée vient de là. Donc,
c'est le bon moment pour l'identité d'avoir ben oui, un problème avec le verbe être.
Voilà, absolument. nous sommes cela. Alors, j'ai presque l'impression que l'identité, au fond, la seule façon qu'on ait de vraiment essayer de la cerner, c'est effectivement de faire une espèce de liste à la Prévert de l'ensemble des traits qu'on a plutôt du côté de l'avoir. Au fond, on a un réseau relationnel, on a une couleur de peau, on a un sexe. On ne dit pas qu'on est son sexe, quoi. Pourtant, c'est une question identitaire forte. L'identité sexuée, c'est même la première des identités, si on veut passer par là. Mais au fond, on a ces choses-là. D'ailleurs, même pour le sexe, on peut en changer aujourd'hui. Donc, la question est vraiment très, très... très très troublé, mais c'est pour ça que je n'aime pas non plus tellement, j'aime pas du tout, je crois, le terme de métissage que tu as donné tout à l'heure, Gabriel. J'aime pas du tout ce terme-là parce que, au fond, on n'est jamais métisse que pour celui qui nous regarde. On ne se sent pas soi-même métisse, au sens où on ne se sent pas décomposé. On a sûrement des. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, hein, qu'on a une forme de conscience d'une totalité. Qu'on définit comme ça, avec des traits identitaires, et c'est tout ce qu'on peut faire. Et au fond, sauf à attribuer à des traits identitaires des valeurs positives et négatives, ce qu'on fait d'une manière générale, avoir une paire de Nike ou avoir le sexe masculin, c'est presque du même ordre pour définir une identité. J'ai l'impression qu'on en est réduit à ce genre de choses. Je pense pas qu'il y ait... Alors après, on peut dire, oui, mais Nike, on s'en fout. Par contre, son sexe, c'est très important. par exemple, ou Nike, on s'en fout, mais le fait d'être breton, c'est extrêmement important.
Oui, mais ce qui me faisait utiliser le terme de métissage, c'est le terme de classification, de normalité ou de conformité. Parce qu'en fait, derrière l'identité se pointe quand même très, très violemment, quelquefois, même radicalement, la notion, finalement, de lutte, de repli ou de construction. Et il faut savoir à quelle instance on fait appel, finalement. Est-ce qu'on est dans un registre d'acceptation, finalement, ou est-ce qu'on est dans un registre, finalement, de définition qui peut aller jusqu'à l'exclusion?
Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est, je trouve que c'est un petit peu comme le bien et le mal, où c'est souvent difficile de définir ce que c'est. Moi, j'aurais envie d'aborder la question de l'identité en disant peut-être ce que ce n'est pas. C'est-à-dire, j'aurais envie de dire, par exemple, qu'il me semble que l'identité, en tout cas, ce n'est pas la race. Que l'identité, ce n'est pas la nationalité. Que l'identité, ce n'est pas l'appartenance. Que l'identité, ce n'est pas la naturalité de l'appartenance, par exemple. Que ce n'est pas l'identité sexuée. Que ce n'est pas la filiation. Que ce n'est pas l'histoire. Que ce n'est pas le métier. Que ce n'est pas les goûts. Que ce n'est pas une sorte de consensus de comportement.
Il ne va plus rester grand-chose.
Sauf que si, l'idée, ça serait que... Mais c'est un peu de tout ça. C'est un tout petit peu tout,
oui,
ça.
Bien sûr.
Hein, c'est pour ça que... Alors, moi, ça me rappelait deux choses particulières. J'ai lu un interview, il n'y a pas tellement longtemps, de Hubert Reeves, qui raconte que... L'astrophysicien, qui raconte, lui, il a fait une psychanalyse, et il raconte, parce que ça me parle beaucoup, il raconte que quand il est arrivé, il a commencé sa psychanalyse, il était assez uni et tout allait bien en lui. Puis quand il est parti, il y avait des milliers de personnages, enfin, ou des dizaines de personnages à l'intérieur de lui-même. Voilà, donc du coup, ça me renvoyait à une image, il me semble qu'elle est de Michel Serres, mais je ne suis pas certain, où il parle de ce manteau d'Arlequin. C'est-à-dire où il y a ces tas de petites patchwork qui, au fond, nous définissent. Donc finalement, dans cette pluralité, on pourrait dire que finalement, même si je ne suis pas obligatoirement très très d'accord avec toi par rapport à ce que tu disais du côté de ce que tu disais tout à l'heure, finalement, avoir des Nike, même si c'est temporaire, même si c'est un peu factice, même si c'est un peu... Enfin, pour moi, c'est un peu de la pancarte, hein, c'est un peu de l'affichage. Ça peut contribuer à quelque chose de notre identité. Mais pas en termes... Alors là, je vais reprendre des mots qui ne te plaisent pas, mais il me semble qu'ils sont quand même justes. Pas en termes d'être, mais en termes de sentiment d'appartenance.
Oui. Hein? Oui, mais est-ce que l'identité peut vraiment être autre chose qu'un ensemble de pancartes ou d'affiches qu'on met comme ça ? Parce que tu parlais de psychanalyse, ça me fait penser à... On l'avait légèrement évoqué la dernière fois, mais ça me fait penser à un terme de Lacan, Jacques Lacan, donc psychanalyste, dont la thèse portait sur la paranoïa. Et il a dit très, très souvent, il l'a asséné même, que au fond, la personnalité, c'est la paranoïa. C'est-à-dire ce sentiment d'unicité, de cohérence dont tu parlais à propos de Reeves, ben c'est ça, on a une personnalité, on est cela. Donc, identité, personnalité, là pour le coup, je pense qu'on peut presque, peut-être pas tout à fait, mais presque confondre les deux notions. C'est quelque chose qui a une tendance paranoïaque, qui a une tendance au repli, qui a une tendance à une position défensive et donc agressive, parce que quand on se défend très très fortement, en général on est agressif, on se sent menacé dans son identité, on le dit toujours, menacé dans son intégrité, dans son identité, et là on va mordre. Et plus donc cette personnalité ou cette identité est constituée, bah, au fond j'ai l'impression que c'est là qu'elle pose le plus grand nombre de problèmes. Donc je préfère penser, mais c'est peut-être juste une préférence comme ça, parce qu'au fond, je la fonde peut-être pas très bien, mais penser que l'identité n'est que ce système d'affichage. Et c'est pour ça que je parlais de Nike, parce que c'est un peu provocateur certes, mais au fond, est-ce que ça n'est pas pratiquement la même chose, quoi ?
Enfin, moi, je crois qu'à chaque fois qu'il y a expression volontaire ou velléitaire, et je différencie les deux, de l'identité, c'est qu'il y a à la clé ou à la base une tension. Et cette tension amène, puisqu'on parle pour l'instant non pas des groupes humains, mais de l'individu, cette tension amène l'individu un état de déséquilibre plus ou moins marqué, de déstabilisation, qui va entraîner un besoin de retour vers un certain équilibre. Par contre, la question que je me pose et auquel je suis très attentif, c'est la durée de stabilité et de l'équilibre retrouvé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, je suis sous tension, je réagis. Derrière ça, la réaction que je génère crée un autre état de tension chez l'autre, éventuellement, puisque mon état de tension n'est pas uniquement dirigé vers moi-même. Et du coup, quelle dynamique que je m'inscris ? Est-ce que je cherche la stabilité ou je cherche à me rassurer, tout simplement, ponctuellement ?
Ce que ça m'évoque, en tout cas, mais c'est un tout petit peu, un peu plus resserré que ton propos qui est plus large. Ce qui me semble, c'est que quand un individu, je crois que c'est vrai pour le groupe, mais on va reparler après au niveau du groupe, hein, quand un individu sent son identité fragile, c'est à ce moment-là qu'il va brandir quelque chose d'identitaire. Ou plus exactement, c'est le plus souvent quand il y a quelque chose qui est brandi comme un étendard, comme une espèce de défense, avec beaucoup, beaucoup de force, que cela témoigne, à mon avis, d'une identité qui, à ce moment-là, est fragile. Il ne s'agit pas du tout de mettre un jugement de valeur là-dessus, parce qu'il y a des moments où notre identité, dans une modalité particulière d'appartenance, par exemple, elle est fragile. Voilà, ça, je pense que c'est important. Quand quelqu'un affirme une thèse avec force, avec une très grande force, quand il brandit une image extrêmement puissante, c'est souvent que l'intériorisation et la stabilité, la sécurité intérieure de cette identité est fragile chez lui. Voilà, sans que ce soit un jugement de valeur, juste parce qu'il y a des moments où il y a cette fragilité, voilà, ça fait partie de l'existence. Hein.
Oui, alors je ne sais pas très bien ce que serait du coup une identité forte. Bon, mais oui. Voilà, parce que une identité fragile suppose qu'il peut y en avoir de plus forte. Mais dans le vieux thème littéraire que le bouquin dont je parlais, le contorsionniste, fait aussi état, ou auquel il se réfère plutôt, il y a beaucoup, beaucoup de livres, évidemment, qui traitent du changement d'identité permanent. Et au fond, à chaque fois, ce sur quoi on va tomber, c'est sur l'histoire. C'est-à-dire que l'identité, ce serait quelque chose du temps, de l'histoire personnelle. C'est-à-dire que mon identité, c'est ce qui m'est arrivé. Encore une fois, c'est pas quelque chose, c'est pas une définition essentielle, pour le coup. Non plus, c'est toujours pas de l'essence, mais c'est ce qui m'est arrivé. D'ailleurs, on le voit, il s'agit toujours de quelqu'un qui perd sa mémoire, perd son identité, on le dit comme ça. Je pense que, Dominique, tu as constaté ces choses-là, peut-être cliniquement, y compris, les gens qui avaient des amnésies, ils savent plus qui ils sont, d'abord et avant tout. Ils perdent leur nom, c'est la chose la plus qui fait le plus vaciller, probablement. Mais en même temps, est-ce que ça constitue vraiment... des catégories identitaires, c'est pas non plus très très évident. Mais pour autant, quand on passe à l'histoire longue, c'est-à-dire celle qui dépasse l'échelle d'une vie, donc une identité cette fois qui n'est plus une identité individuelle, personnelle, mais qui est une identité plus collective, forcément faire référence à des affirmations comme la référence aux Gaulois, par exemple. Bon, la référence aux Gaulois, c'est une référence à l'histoire aussi, une référence au temps. Donc, est-ce que ça peut valoir comme identité en tant que l'identité serait la mémoire ? Sachant que le problème, c'est qu'on remonte aux Gaulois, oui. Alors, par exemple, au temps des Gaulois, je n'étais pas français, du coup, puisque j'étais breton. Bon,
donc... Et puis, les Gaulois, ils n'étaient pas chrétiens, en plus. Hein,
en plus, ils n'étaient pas chrétiens, oui, tout à fait. Alors qu'on... D'ailleurs, du côté du même qui citait ces questions autour du Gaulois, il cite aussi l'identité chrétienne de l'Europe.
Oui, tout à fait. Alors, moi, je trouve que ce qui manque dans ce que tu dis, qui me semble vraiment important du côté de l'histoire, je vais reprendre une petite chose médicale. C'est vrai que lorsque quelqu'un vient voir un psychanalyste, il y a un travail sur l'histoire qui est tout à fait essentiel. Quand les gens ont des trous de mémoire qu'on appelle les ictus amnésiques, c'est-à-dire ils ont un trou, c'est-à-dire pendant 3 heures, en général c'est court, ou pendant une après-midi ou une matinée, ils se souviennent plus de rien du tout. Voilà, ils ont eu un comportement normal, mais ils se souviennent plus du tout. C'est quelque chose qui est en général terrible. Le plus souvent, on trouve rien du tout, c'est-à-dire il n'y a pas de cause, c'est pas un accident vasculaire cérébral, etc. On trouve rien. Ça s'appelle un ictus amnésique et on dit madame, monsieur, c'est pas grave, ça peut arriver, voilà, et puis c'est tout. Mais c'est extrêmement, extrêmement déstabilisant, comme si la continuité de notre identité reposait sur la continuité de notre mémoire.
Oui,
c'est pour ça que par rapport à ce que tu dis, Olivier, du côté de l'histoire, je suis bien d'accord, à condition qu'on pense l'histoire comme un processus et pas comme une suite d'événements. C'est-à-dire, ce n'est pas l'histoire en elle-même qui va construire notre identité, c'est le sens et la subjectivité qu'on va donner à notre histoire qui construisent notre identité, ce qui change.
Ah,
parce qu'on n'est pas du côté des faits, mais on est du côté de ce qui bouge, hein, de ce que tu as appelé, Gabriel, cette dynamique tout à l'heure.
Ouais, juste au passage, c'était parce que ça illustre, ou ça appuie complètement ce que tu dis, une phrase de Lévi-Strauss qui a écrit un petit essai en 58 qui s'appelle « L'identité ». Justement.
Ah oui.
Ouais, il dit, voilà, une phrase toute simple, l'identité se réduit moins à la postuler ou à l'affirmer qu'à la refaire, la reconstruire.
Oui, bah oui. Ouais,
voilà. Ça veut dire qu'en effet, on se construit à partir d'un empilement conséquent de deuil.
Oui, alors, c'est intéressant que tu dises ça, Gabriel, parce que ça revient à dire quels sont les moments de grands questionnements identitaires dans l'existence, hein,
oui.
Ou éventuellement de crise identitaire, parce que tout le monde parle de crise identitaire.
Oui, c'est vrai.
Hein, et alors, on connaît tous ces grands moments, par exemple l'adolescence, c'est un grand moment de crise identitaire. Mon papa, c'était le plus grand des pompiers, il s'appelait Barack Obama, et puis ma mère, c'était, je sais plus trop quoi, enfin, ce qu'on veut, quoi, c'était un héros et puis une héroïne, et puis finalement, je m'aperçois qu'ils sont quand même un peu chiants, et puis qu'ils ont plein de défauts, etc. Donc, grande crise identitaire, puisque les endroits qui me servaient à me définir, finalement, j'aperçois que, voilà, ils ont plein d'ombres. Hein. Donc, grande crise identitaire. Et le deuil, c'est en effet un moment de grande crise identitaire. C'est-à-dire, le deuil, qui est une dynamique aussi, moi, je vais dire qui est un processus, c'est le moment où quelque chose que l'on avait en tant qu'objet possédé sur le plan de l'être, si je puis dire, si c'est un peu bizarre. Ça,
avoir hein. Sur le plan de l'être.
Voilà, c'est ce qu'on avait sur le plan de l'être. Hein, voilà. C'est-à-dire, on le possédait en tant que vraiment quelque chose qui... Voilà. Et on l'a perdu. Et on l'a perdu et ça vient remettre en cause notre identité. Et pour continuer à vivre et rentrer dans une dynamique, rentrer dans ce processus de construction permanente de notre identité, il faut qu'on l'intériorise. Donc, en effet, la question du deuil, c'est le plus souvent un moment de grande crise identitaire.
Alors, il faut faire avec ça, effectivement, au niveau de l'individu, mais il faut faire avec ça également au niveau du groupe, parce que l'individu reprend sa place dans un groupe plus élargi que le singleton qu'il représente. Et du coup, les problèmes ou les questionnements qu'on vient de se poser à propos de l'individu se reposent au niveau plus global et d'une façon... Alors, est-ce qu'ils se posent de la même façon? Est-ce que l'identité, finalement, ou les crises identitaires dont on parlait au niveau de l'individu retrouvent une résonance équivalente au niveau des groupes? Et des groupes élargis, notamment.
Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un sujet extraordinairement présent en ce moment. Ouais. Et des moments, surtout dans deux pays, de manière forte, puisqu'on en est aux États-Unis et en France, à des moments présidentiels ou pré-présidentiels, où on a l'impression que c'est au-delà des programmes dont on entend finalement relativement peu parler. Ouais. Et puis au-delà des questions plutôt au-dessous de la ceinture dont on entend parler
aux États-Unis
de manière absolument incroyable ces derniers temps, c'est bien la question identitaire qui fait clivage, quoi, tout le temps. Ou qui rassemble et qui désassemble en même temps.
Donc, à travers ces deux exemples, tu fais un cheminement qui dit que finalement, il y a... Est-ce qu'il y aurait une culture de résonance, finalement, qui ferait qu'on réagirait d'une certaine manière, même si elle est différenciée, mais presque identitaire, à notre époque, entre des cultures, je dirais, proches?
Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est absolument certain, c'est que les discours, depuis quelques années, encore une fois, depuis que c'est peut-être à peu près contemporain de la question d'une identité qui tout d'un coup devient un thème majeur, alors qu'avant on l'avait plutôt en tant qu'adjectif qualifiant un repli ou une communauté, plutôt négatif en plus. Aujourd'hui, c'est l'identité, c'est le substantif comme ça qui se pose là de manière massive. Et qui est censé être peut-être la voix pour parler au peuple. En tout cas, c'est comme ça que les politiques semblent le considérer. C'est-à-dire pour parler au peuple, il faut dire « je suis comme vous, vous êtes comme moi, nous sommes pareils ». Et pour définir ça, la plupart du temps, ce qui est évoqué, c'est pas tellement justement une communauté de pensée ou de traits identitaires communs ou... voilà, c'est plutôt du côté du rejet de ce qui est autre, quoi. C'est quand même plutôt comme ça que l'identité se pose à chaque fois, il me semble.
Oui, c'est-à-dire en gros, on se rassemble contre l'autre. Hein, c'est-à-dire on définit son idée contre, ouais, son identité contre l'autre. Ouais. Moi, l'idée qui me vient par rapport à ça, c'est que c'est parce qu'il n'y a pas de projet. C'est-à-dire pour reprendre cette idée de dynamique ou cette idée de processus, c'est que, je me souviens, il y a quelque temps, on avait discuté ensemble, et tu sais pourquoi on parlait des antibiotiques, je ne sais pas si je te rappelle,
ouais,
et je t'avais dit, les antibiotiques, ce n'est pas les microbes qui ont fait les antibiotiques, ouais, c'est les antibiotiques qui ont fait, ouais, les microbes.
Je trouvais ça passionnant.
On a trouvé une arme.
Renversement de perspective, voilà, c'est très
On a trouvé une arme, et alors d'un seul coup, on s'est dit, tiens, on a une arme, bah, autant s'en servir, et du coup, on va attaquer les microbes. On sait par exemple dans les années 2015-2016 actuellement que la place des bactéries, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement important. La place des virus, c'est extrêmement important. Donc, on est en train de rechanger la perspective et de voir, voilà. Ça ne veut pas dire que dans certaines circonstances relativement peu importantes, les antibiotiques, ce n'est pas tout à fait important. Mais ce que j'ai envie de dire du côté de l'identité, c'est que c'est parce qu'il y aurait une sorte de fracture du côté de cette dynamique, une fracture du côté de ce processus de construction jamais achevé, toujours en cours, toujours un mouvement du côté de l'identité, qu'on aurait besoin de se trouver un ennemi. Mmh. Voilà. La version la plus sordide de ça, une bonne guerre, ça va leur faire du bien.
Absolument. Enfin, c'est, hein, un vieux thème, oui.
Mmh. Alors, du coup, comment réguler à l'échelle d'un groupe élargi ces ressentis, finalement, identitaires, puisqu'on peut parler presque de ressentis, là. Il y a une réalité et il y a, en fait, une virtualité qui fait office de réalité.
Bah, du côté du ressenti, je trouve que ça renvoie à la question du coup de l'altérité, finalement. C'est-à-dire, on a parlé beaucoup de l'identité, et la question, ça serait du côté de l'altérité. C'est-à-dire que si le projet de l'individu ou le projet du groupe ne porte pas son identité, ou plus exactement, dit dans l'autre sens, ça me paraît peut-être plus juste, c'est-à-dire la construction de son identité ne passe pas par un projet qui fait du sens, c'est-à-dire qui fait de la vie, ou pour l'individu, ou pour le groupe, alors on va se dire que c'est l'autre qui est le mauvais, qui est le méchant. Voilà.
Mais alors, cette crise, puisqu'on est dans la crise identitaire possible d'un groupe élargi, cette crise, elle aurait effectivement quelle cause? Parce qu'en fait, on y voit bien les effets qu'ils produisent, mais derrière, pour intervenir en termes de régulation, il faudrait mieux encerner les causes. Est-ce que ça serait une cause qui serait externe et qui serait en fait immaîtrisable par l'individu, peut-être par un collectif avisé, ou est-ce que ça serait plus quelque chose qui serait de l'ordre finalement d'une dérégulation tout simplement?
Dans ce que disait Dominique, il y avait, si je comprends bien, donc la question du projet commun, voilà, qui pourrait... Je me demandais si... Je ne sais pas si vous vous rappelez, je crois que c'était En 2012, à nouveau aux élections présidentielles, ici, il y avait un candidat, un tout petit candidat dont j'ai complètement oublié le nom, peut-être Cheminade, quelque chose comme ça, qui avait un rêve commun. Il voulait proposer un rêve commun, qui était de renouer avec la conquête spatiale. Voilà, c'est son seul, pratiquement le seul élément de programme. Alors, c'est pareil, cocasse comme ça, mais en même temps, c'est cocasse. Mais ça raconte un truc, je crois. Ça raconte que quand il y avait la conquête spatiale, ben, il y avait peut-être cette espèce de rêve commun et qu'on peut. Et c'est amusant peut-être de dire vraiment ça, même du côté du rêve plus encore que du projet, pour désigner à quel point il y a quelque chose de tout à fait imaginatif, une œuvre d'imagination qui peut embarquer effectivement une collectivité, puis faire, pourquoi pas, tenir lieu de quelque chose qui nous met ensemble, qui nous tient ensemble. Et on dirait que le
mais
thème...
c'est mieux que les Nike, quand même.
Oui, c'est mieux que les Nike, c'est plus
sympa. Ah, t'es d'accord, parce ouais, que avec les Nike, tout à l'heure...
En même temps, je préfère mettre des Nike plutôt que de monter dans une fusée, je crois. Mais enfin, bon, j'aurais un peu peur, je crois. Mais bon, ce que je voulais dire, c'est que, du coup, j'ai l'impression que l'identité prend la place d'un rêve commun qui n'est plus, et l'identité comme là aussi quelque chose, une œuvre d'imagination, parce qu'après tout, il faut quand même imaginer que les Français sont des Gaulois, quoi. C'est un truc, c'est une aberration historique. On pourrait très bien dire, non, bah, la France c'est 1500, c'est François Ier, l'édit de Villers-Cotterêts, la langue française unique, etc. Enfin, on peut choisir n'importe quel temps historique et puis définir du coup des identités extrêmement différentes, mais peu importe, c'est de l'imagination. Mais comme c'est tourné autour du passé, il y a peut-être quelque chose comme ça d'une réaction, d'un retour, vous savez, du « c'était mieux avant », plutôt que de rêver d'avenir, de rêver d'ailleurs, de rêver d'aller quelque part, eh bien on se dit, puisqu'on ne va plus nulle part, puisque c'est vraiment nul là où on est, etc., c'était mieux avant, et il y a là un retour identitaire à un passé qu'on peut désigner comme commun entre quelques-uns, sans doute, et qui exclut les autres, mais enfin, quelque chose comme ça.
Et là, effectivement, tu fais référence à l'imaginaire, qui est la partie non visible du projet ou de l'identité, mais dans laquelle vient s'alimenter un certain nombre de dynamiques et d'énergies qui sont réutilisables après. Et je pense à ce que tu me disais, Dominique, sur... la cassure qu'avait provoqué le livre de Hollande. Tu peux me repréciser, parce que...
Oui, ça me rappelait un texte d'une conférence de Kantorowicz, en 1956, je crois, où il parle des deux corps du roi. Et il dit que dans le roi, il y a deux corps. Il y a un corps concret, réel, c'est celui voilà, qui prend sa douche en gros tous les jours, c'est-à-dire qui vit sa vie quotidienne avec ses proches, avec ses affects, ses émotions. Et puis, il y a la figure symbolique du roi. Et moi, je n'ai pas lu le dernier livre de notre président, là, mais il me semble que dans l'effet que ça a fait, c'était comme si, au fond, il y avait justement du côté de cet imaginaire, c'était la fin de la fracture. C'est-à-dire, par rapport à... On a eu un président, pour faire court, un peu hystérique. Là, on a un président normal, et là, il est encore plus normal que normal. C'est-à-dire... il vient nous imposer un désenchantement. Donc c'est ça, à mon avis, qui est terrible. Moi, je trouve que c'est atterrant.
C'est une trahison, pratiquement, oui.
Voilà. Du coup, non seulement il n'y avait pas de projet, mais en plus, il nous raconte sa liste de courses. Donc, j'allais dire, je ne sais pas pour le contenu, je n'ai pas lu le livre, peut-être je ne le lirai pas. Mais dans le projet de conquête spatiale que tu évoquais, Olivier, tout à l'heure, moi, ce qui me semble important à souligner, c'est que là aussi, c'est la dynamique qui compte dans le projet. C'est quoi le but du projet? Je pense que personne n'en sait rien. Qu'est-ce que c'est qu'être heureux? Pour moi, c'est être en phase avec son projet et sentir qu'on avance dans son projet de vie. Vers où on va, on n'en sait rien. Le but, c'est pas important. Ce qui compte, c'est que la dynamique, on la sente comme juste. Voilà. Donc il me semble que ce processus dynamique à l'intérieur de soi, du côté de son identité, on a besoin de le sentir juste dans une sensorialité, c'est-à-dire ça fait du sens, dans une sensorialité charnelle, physique, émotionnelle, tout ce qu'on veut, dans une signification, ça fait du sens, et puis il y a une direction, les trois mots du mot sens. Voilà. Donc il me semble que la conquête spatiale, et alors là on pourrait presque mettre l'altérité, c'est-à-dire on allait chercher l'autre ouais. sur la Lune finalement, on allait chercher l'autre. Et l'autre, c'était pas juste le petit martien ou le petit lunien, etc. C'était l'autre qui était le voisin. Viens, on va partager ensemble quelque chose du désir d'aller conquérir, en l'occurrence la Lune. Mais ça peut être aussi le cœur de sa chérie ou de son chéri, ou j'allais dire de partager avec son voisin. Donc dans cette dynamique-là, il y a quelque chose qui vient dire l'identité parce qu'il y a un processus qui est en cours, il y a une dynamique qui est en cours. Et le but, on n'en sait rien. Ça nous échappe.
Ça me fait penser que je ne sais pas si je me trompe ou pas de nom pour ce candidat en 2012 qui proposait ça, mais si c'est bien Cheminade, quand
c'est
même.
C'est quand même extraordinaire.
C'est quand même assez joli.
Ouais, tout à fait. Ouais, c'est quand même.
Alors l'imaginaire identitaire m'amène à interroger finalement la pathologie identitaire. Sur ce plan-là, qu'est-ce que tu en dirais, toi, en tant que médecin, Dominique ?
Un des moments particuliers de crise identitaire dans le cadre, en effet, d'une souffrance importante, c'est le cadre d'une tentative de suicide. Dans une tentative de suicide, il y a pour moi une erreur du moi parce que on ne se suicide jamais par courage, on ne se suicide jamais par lâcheté, on se suicide par désespoir. Donc il y a un certain moment où dans ce processus de mise en perspective de sens, il y a une crise identitaire telle que il y a quelque chose qui n'est plus possible. Soit que la souffrance est trop importante, soit que l'absence totale de sens est délétère. Mais j'ai envie d'ajouter que pour moi, ce temps-là peut être un moment, certes, de crise identitaire, mais qui peut intervenir dans le cadre d'un vrai processus vivant aussi. Je vais donner juste une image. Le plus souvent, lorsqu'on a l'envie de se tuer, c'est que à l'intérieur de soi, je ne vais pas développer plus, mais juste donner l'image, à l'intérieur de soi, il y a un personnage qu'on ne supporte pas. Hein. Je donne un exemple pour aider. Si je suis un garçon, par exemple, je peux avoir le sentiment subjectif que je ne vis dans ma vie que ce que m'a demandé d'être mon père. Et que ça, à un certain moment, ce n'est plus possible. Mais je n'en ai pas conscience, sauf que je ne peux pas vivre parce que ça ne fait pas du sens pour moi. Et donc, je vais choisir de me suicider. Mais l'enjeu, ça va être avant tout, évidemment, c'est extrêmement raccourci ce que je raconte, ça va être avant tout de tuer le fils de ce père-là. Que ça soit le fils réel du père qu'il a imaginé comme ça, ou que ce soit mon sentiment à l'intérieur de moi-même. Donc, crise identitaire avec souffrance importante au moment d'un suicide, d'une tentative de suicide, mais on peut en faire aussi un grand moment de quête identitaire pour comprendre ce qui se joue à l'intérieur de soi-même.
D'accord. Alors pour que je sois plus clair maintenant avec ma compréhension personnelle, est-ce que la dépression est une faille identitaire ?
Exactement. La dépression, pour moi, c'est quelque chose qui est une invitation par le psychisme ou par l'inconscient à élargir son champ de conscience, à reconsidérer ses investissements, ou dit pour ce qui nous occupe aujourd'hui, à redéfinir son identité, mais que je dirais sa quête identitaire, si on le pense en termes de dynamique, pour reprendre ton mot, ou pour prendre le mot qu'on a repris aussi, je crois, ensemble, de processus. Donc, la dépression, c'est un moment de questionnement identitaire où nous sommes invités à reconsidérer ce qui nous définit et la perspective vers laquelle on va.
Alors, dans ce processus, appelons-le comme ça maintenant, identitaire, il y a des exemples qui sont divers, qui me viennent à l'esprit. C'est par exemple les hommes politiques. Les hommes politiques forment une caste qui souvent émane d'une même école, qui ne les empêche pas effectivement d'avoir des opinions différentes, mais qui fait que à la sortie de l'expression de ses opinions, il se retrouve comme appartenant à une même famille, la famille des politiques. Par exemple, les gens qui sortent et qui ont fait l'ENA.
J'ai l'impression, en fait, pour reprendre cette question, mais ta question d'avant, Gabriel, qui était les pathologies identitaires. En fait, je me demande si on ne pourrait pas aller jusqu'à dire que l'identité, dès lors qu'elle est fixe, et donc elle n'est plus de l'ordre d'un processus, l'identité fixe, comme ça, comme celle « je suis énarque, et je suis énarque à vie, pour toujours, comme tous les énarques qui sont énarques à vie et pour toujours ». Ça, c'est la pathologie. C'est le fait de s'arrêter à un point. Je vais faire un petit détour, parce que c'est un mot qu'on n'a pas cité, pourtant, enfin si, Dominique, tu l'as cité, mais on est passé dessus très très rapidement. C'est un mot qui m'interpelle beaucoup, c'est la question de la race. La race humaine, alors il y a tous les ans dans la presse, c'est un marronnier la race. Des gens qui disent la race humaine, il n'y a pas des races humaines, il n'y a qu'une race humaine, biologiquement c'est prouvé, ou alors il y a des races humaines, parce que, etc. Bon, en gros, on s'en fout quand même, parce que tout dépend de la définition qu'on donne à la race. Si la race c'est la couleur de peau, bah ouais, il y a des races. Par exemple, et il y en a plein même, parce qu'il y a des tas de nuances de couleur de peau. Gabriel, tu es plus mat que moi, t'es pas de la même race, t'es de la race un peu mat.
Pourtant, je suis suédois d'origine.
C'est pour ça, peut-être. Tu as pris le soleil de France. Et moi, je suis un peu rosâtre, plutôt. Enfin, par exemple, on pourrait aller loin dans les définitions des races. Et c'est pas. Et en gros, on s'en moque de ça. C'est pourquoi ne pas imaginer, effectivement, définir des races humaines. Bon. Je crois, ça ne me poserait aucun problème. Ce qui est différent, c'est la question raciste cette fois, non pas raciale. Là, pour le coup, on peut avoir une idée politique sur la question. Et si, par exemple, les énarques sont bien une race, la question est de savoir si cette race-là, comme d'autres races, peuvent se permettre d'être racistes, c'est-à-dire d'exclure, en gros. D'exclure, par exemple, tout raisonnement qui ne serait pas dans la forme et dans la norme de ce qu'un énarque produit. Hein, encore une fois, si l'énarque, en tant qu'énarque, ne bouge pas, n'est pas dans un processus, c'est plutôt ça, je crois, qui est bon, problématique, en fait.
Alors, on n'a pas évoqué non plus le formalisme visuel apparent de la similarité, donc de l'identité commune, comme peuvent le montrer les bataillons, par exemple, de l'armée, qui ont le même uniforme, ou l'habit des académiciens. Alors, derrière cette apparence-là, il y a effectivement diversité de la pensée, mais il y a quand même unité. Et la question est-ce que l'unité est un rêve finalement inaccessible dans le cadre d'une société plurielle et élargie?
Je me permets de reprendre la parole juste parce que ça va très bien avec ce que je viens d'essayer d'expliquer en mieux ce que tu viens de dire. Parce que la question des uniformes, par exemple, c'est très intéressant. Des uniformes et des rituels. On voit bien que l'exemple le plus fort, probablement, de la ritualisation, c'est l'exercice, non pas de la religion, mais du moment de la messe, par exemple. C'est très ritualisé. On voit bien que là, il y a une communauté qui se forme autour d'un rituel qui est pratiqué exactement en commun. La question de l'uniforme dans l'armée, c'est pareil, c'est une modalité de reconnaissance. Il y a bien de l'identique, de l'idem, puisque c'est le même uniforme, avec quelques codifications un peu spécifiques pour les grades, bon, mais c'est bien le même uniforme. Et au fond, c'est un peu comme la race, ça n'est absolument pas un problème qu'il y ait un uniforme pour telle armée, un autre uniforme pour telle autre armée. Après tout, le problème ne vient qu'à partir du moment où ça devient un signal de reconnaissance pour savoir qui on doit tuer. Mais si c'était un signal de reconnaissance pour savoir avec qui de différent on peut échanger, là, ça peut être très très intéressant. Donc, c'est pas le signe en lui-même qui pose un problème, mais c'est ce qu'on en fait, encore une fois. C'est toujours le processus, quoi.
Oui, en tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment intéressant ton idée, c'est-à-dire que la dangerosité, au fond, je le dis comme ça, et peut-être on trouvera mieux, la dangerosité de l'identité, ça serait à partir du moment où elle est fixée et où elle bouge pas. Hein. Voilà, que ce soit avec ce corpus des académiciens qui sont en plus des immortels. Alors ceux-là, donc, on va se les taper pendant longtemps quand même, puisqu'ils sont immortels. Hein. Enfin, heureusement, nous, on va mourir. C'est pour ça que je trouve qu'il y a deux choses, moi, qui m'évoquent ici-là. Le premier, c'est l'articulation entre l'individu et le groupe. Et la deuxième, au fond, c'est l'altérité, mais peut-être qu'il faudra en reparler une autre fois. C'est-à-dire, on sait bien que Mr. Freud, là, Papa Freud, il a dit que tout ce qui était, au fond, bon pour une société n'était pas bon pour un individu. Sous-entendu que ce qui est bon pour une société, c'est surtout qu'on respecte de manière quasi automatique les normes, alors que ce qui est bon pour un individu, c'est l'expression de sa singularité. Donc, par rapport à ta question, Gabriel, il me semble que la réponse du côté de l'unité, ça n'est possible qu'à condition qu'il y ait une diversité. C'est-à-dire qu'un groupe, c'est un bon groupe quand il n'écrase pas trop les individualités, les singularités, et qui permet l'expression et le développement de chacun. Donc le déploiement au fond de son identité profonde. Et à ce moment-là, l'identité du collectif, c'est à la fois la somme des identités de chaque individu et probablement quelque chose qui pourrait à ce moment-là transcender les individus, en faire quelque chose de collectif. Et ce qui transcenderait ces individus, ça serait là aussi la dynamique du groupe. Mmh. Hein? Ça serait pas une question qui serait fixe, c'est-à-dire on va définir ce que toi t'as appelé une race, mais ça pourrait être autre chose, hein, voilà. C'est pas quelque chose qui est fixe, mais ça serait le corpus dynamique qui soutient l'ensemble de ces singularités, chaque singularité étant respectée.
Oui, alors il y aurait effectivement en matière à un effacement d'une violence par rapport effectivement à une acceptation de la différence. Je pense aux Japonais, dont on dit qu'ils ont une propension à l'effacement du moi. Est-ce que, pour autant, ils sont moins égoïstes ?
En même temps, pour les Japonais, c'est très important de jamais perdre la face. Hein. Jamais, jamais perdre la face, c'est tout à fait fondamental. Donc, j'avoue que moi, pour les Japonais, je ne sais pas. Je me sens aucune compétence pour répondre
j'ai
là-dessus.
J'ai cité les Japonais parce qu'effectivement, oui. Ils ont une propension à ne pas effectivement afficher une identité marquée a priori, oui. et justifier d'un effacement qui n'est pas d'ailleurs un repli. Hein.
Mais j'entendais ton Japonais comme étant l'anti-français individualiste. C'est pour ça.
Peut-être pas anti-français, mais disons quelqu'un qui a plus de scrupules et a exprimé légitimement ce qu'il est.
Ouais. C'est marrant parce que les Japonais, c'est quand même un peuple qui est très loin, géographiquement, qui est très... Alors, très loin géographiquement, en même temps, je fais juste une parenthèse pour dire que quand même, la littérature française au Japon est très importante, la littérature japonaise en France est très importante aussi. Pas que les mangas, mais également la littérature classique, etc. C'est très étonnant comme ces deux pays peuvent échanger sur le plan littéraire. Bon, mais ça, c'est juste une parenthèse, mais ça veut dire quoi ? Capable d'échanger sur le plan littéraire. Donc, on a bien quelque chose qui s'échange du côté de différences absolument radicales. Pareil, je ne sais absolument pas quoi dire des Japonais, parce que je pense que ce qu'on en sait des Japonais, c'est très peu de choses, c'est la surface des choses. Mais justement, peut-être que quand on les lit, on s'aperçoit d'un monde d'une très très grande altérité, on s'aperçoit vraiment d'une très 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 grande différence. Et pour autant, il y a des échanges extrêmement forts. C'est plutôt un exemple. Le Japon, je le regarde de ce côté-là, parce que je ne peux pas le regarder d'accord, du côté d'une d'accord. intériorité, mais bon, en tout cas, j'ai lu beaucoup de japonais, et c'est tout à fait différent, tout à fait intéressant.
C'est pour ça qu'une façon de définir le groupe, ça serait de le définir comme étant un lieu de recherche, un lieu de dynamique, un lieu de processus, et non pas un lieu d'identité, hein. Il y aurait lieu d'abandonner la question d'identité au profit du processus. D'ailleurs, Rousseau, il disait, à propos du groupe, il disait, c'est une mystique plutôt qu'une arithmétique. Et dans le mot mystique, il y a le mot mystère, hein, c'est l'étymologie. Donc au fond, c'est ce qui me semble ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire si la dynamique est connue et commune, s'il y a un élan dynamique et un projet commun, alors l'identité va se définir dans le projet et non pas en fonction de quelque chose que tu appelais fixe. Moi, je trouvais que cette idée de fixité était vraiment intéressante.
En tout cas, je peux vous dire que j'ai adoré pratiquer le judo et l'aïkido. C'est-à-dire des choses tout à fait étrangères qui viennent justement du Japon. Et ce qui me fait penser que dans le cadre du processus, bah, effectivement, ça n'interdit pas une forme de mimétisme parfois, d'appropriation de ce que l'autre peut nous apporter. Probablement d'une manière très différente de ce qu'ils en font eux, mais bon.
J'aimerais que vous apportiez une réponse à cette dernière métaphore qui me vient à l'esprit. C'est le mélange de l'eau et de l'huile. Quand on mélange de l'eau et de l'huile, les deux phases restent séparées. Si on veut effectivement créer une émulsion, il faut qu'il y ait un tiers solvant, un émulsionnant, un tensioactif en quelque sorte.
Un savon.
Voilà. Qui va effectivement jouer le rôle de médiation. Dans la société, pour reprendre cette métaphore, vous avez des gens qui sont effectivement eau, des gens qui sont huile, et des gens qu'il faudrait effectivement encourager à être des médiateurs, en quelque sorte, des tiers solvants. Au point de vue identitaire, comment les voyez-vous, ces gens-là ?
Personnellement, ça me casserait un peu les pieds, quand même, qu'on me mélange de trop. C'est pas que... Parce que... je ne crois pas être raciste, par exemple, mais il y a des gens, ça c'est une donnée réelle, qui me semblent extrêmement différents, qui peuvent éventuellement, d'ailleurs, dans leurs différences, parfois me déranger, parfois, au contraire, m'attirer. Mais là aussi, c'est une dynamique. Et je ne sais pas si le mélange est toujours nécessairement complètement souhaitable. Il y a des mimétismes, des imports, des exports.
Je vois derrière le mélange, le vivre ensemble. Hein.
Alors, le vivre ensemble, oui, mais pourquoi pas avec tout un tas de différences. C'est pas forcément problématique, la différence. Et peut-être même que, au fond... quand on accumule une espèce de liste comme ça de traits évolutifs, dynamiques, etc., on n'a pas envie tout d'un coup d'être totalement bousculé dans cette liste-là tout le temps, quoi.
Mais est-ce que ta conception ne mène pas à une mycélisation de la société, c'est-à-dire de faire des îlots de cohérence ou de rapprochement avec des liens particuliers, mais qui n'ont pas de
communautarisme, quoi, par exemple.
Le communautarisme serait une forme de mycélisation, oui.
Bah, oui, mais ça serait le vivre dans l'opposition. On n'est pas obligé d'être identique pour se fréquenter, faire des choses ensemble. Quand on parlait de projets communs, de rêves communs, ça peut aussi. Il peut y avoir des choses qui unissent, mais de manière très... Pourquoi pas temporaire, là aussi ? Pourquoi pas procédural, quoi ?
Moi, j'aurais envie de dire que ce qui émerge de notre discussion là, c'est vraiment la question, c'est quoi l'altérité ?
Oui, c'est vrai.
Oui, bien écoutez, quelle question pose l'altérité ? Ce sera effectivement le thème de notre prochaine dorsale, émission structurante s'il en est, en ce qui nous concerne en tout cas. Et qui sera revisité le mois prochain, puisque cette émission est mensuelle et que nous tenons à votre présence. Au revoir.